Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire, la campagne d'information contre les violences faites aux femmes, Oranger le Monde, trouve une belle déclinaison sur DLV Aglo. Des détails dans ce magazine. Le 1er décembre à Marseille a lieu une journée de la diversité pour se rassembler. Colline Jutet a rencontré la présidente de Diversité et Handicap qui organise l'événement. À Gap, l'UDAF 05 propose une rencontre-discussion pour concilier vie familiale et activité professionnelle. Reportage dans ce magazine. Le 3e salon de la domotique s'ouvre au public. C'est à Digne le 2 décembre. Le reportage d'Odile Frison pour Force 7. Le parc du Luberon invite le public à Manosque pour une journée fruits et saveurs d'autrefois. Le reportage de Mathieu Marc dans un instant. À Maligey, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est un concours photo de bébés qui est organisé. Des détails dans ce magazine. Pour ses 10 ans, l'Artothèque est accueillie à la Fondation Carzou de Manosque. Une exposition dans une structure finissante. Explication dans un instant. DLV Aglo, Orange son territoire.
L'opération initiée par l'ONU vise à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Elle s'ouvre symboliquement le 25 novembre, date de la Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et dure jusqu'à la Journée des droits humains, le 10 décembre. À l'échelle de l'agglomération manosquine, Oranger le Monde se décline dans toutes les communes, sous la houlette de la vice-présidente de la collectivité, Lise Raoult. Dans chaque mairie, un kit comprenant masques, ballons, dépliants et affiches permet d'oranger foyers, associations et entreprises pour refuser la violence, mais aussi pour promouvoir l'entraide et le soutien aux victimes. C'est une campagne pour éveiller les consciences et contribuer à faire parler les témoins, a indiqué le président Pétrini lors de la présentation de l'opération. Lise Raoult présente le dispositif. Lise Raoult, l'agglomération manosquine participe à l'opération Orangeons le Monde et c'est une opération qui est menée par l'ONU.
Absolument. Cette opération est née en 1991. Depuis, chaque année, le Centre pour le leadership global des femmes, l'Organisation des Nations Unies et l'UNESCO, et bien d'autres organismes, font revivre Oranger le Monde. Cette opération prend place à des dates fixes, du 25 novembre au 10 décembre, respectivement Journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes et Journée des droits humains.
Et donc, au niveau territorial, vous déclinez ça avec une série d'objets que vous diffusez dans les communes.
Tout à fait. J'ai proposé, lors de la conférence des maires, aux maires des 25 communes, d'oranger leur territoire avec des ballons et des flyers où on explique pourquoi DLVA contre les violences, oranger votre territoire avec nos ballons. Et derrière, j'ai marqué tous les numéros de téléphone que nous pouvons joindre, que nous soyons victimes ou témoins de victimes. Parce qu'un témoin de victime, c'est très important. Il peut sauver aussi une vie. Parce qu'une femme qui est victime de violence a souvent, malheureusement, peur et honte. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est que ça soit l'inverse. La honte change de camp. La peur change de camp.
Et pour cela, il faut inciter effectivement les personnes à joindre des numéros de téléphone, par exemple, et pas uniquement le 3919.
Exactement. Le 3919, c'est spécial pour les femmes battues, les femmes et les filles battues, mais pas que. Toutes les personnes vulnérables. En fait, moi, j'ai voulu ouvrir, parce que je voudrais que toutes les personnes vulnérables puissent appeler. Et en fait, avec le 112, le 17, il faut faire ces numéros de téléphone. Il faut que vous soyez victime ou que vous soyez témoin, il faut absolument appeler. On n'a pas le droit de laisser mourir quelqu'un sur son palier.
Vous distribuez des masques sanitaires, des ballons également évidemment de couleur orange. Vous souhaitez que le territoire de la DLVA devienne orange pendant quelques jours ?
Oui, oui, tout à fait. Mais j'y crois parce que vu l'empressement des maires suite à mon discours de la conférence des maires, ils ont vraiment été super conquis par cette action. Et moi, je reste persuadée, d'ailleurs, on en fera le tour quand ils auront tout orangé. Moi, je reste persuadée que tous ces maires vont oranger leur ville. Et mais pas que les maires, les habitants. Les habitants viendront chercher en mairie un flyer avec les numéros et l'explication que je vous donne à la radio. Mais ils prendront des ballons. Avec les ballons, ils vont l'accrocher à leur fenêtre, à leur portail, à leur balcon. Vous voyez, c'est tout le monde. Je ne veux pas que ça soit... Nous, en tant qu'élus, on a un devoir de s'emparer de toute cette cause qui est absolument abominable, qui est la lutte contre les violences. Mais je pense que les habitants, moi je mets à contribution les habitants, parce que je suis sûre que c'est une demande des habitants aussi. On est élus, mais on doit s'attaquer à des grandes causes, et celle-là c'est une grande cause.
Merci beaucoup Lise Raoult, je vais vous faire une confidence, je le fais rarement. Nous allons prendre quelques ballons et nous allons les mettre dans notre radio à Manosque. À bientôt.
Journée pour la diversité.
Proposée dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, la journée de la diversité est organisée à Marseille le 1er décembre, salle Vallier, 90 boulevard Boisson, dans le 4e arrondissement. Outre les échanges entre participants et public, le but est de faire évoluer le regard sur la différence et montrer la richesse des initiatives menées par l'ensemble des acteurs et actrices de terrain. C'est un événement gratuit et accessible à tous qui durera toute la journée de 10h à 17h. Pour y assister, il faut s'inscrire par mail diversitéethandicap@gmail.com. Présidente de l'association organisatrice Diversité et Handicap, Joëlle Mathioni détaille le programme de cette journée conviviale au micro de Colline Juté.
Je suis Joëlle Mathioni, je suis la présidente de Diversité et Handicap, qui est une structure qui est dédiée à l'inclusion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, donc dans les entreprises traditionnelles. Notre structure porte la journée de la diversité, qui est une journée qui est consacrée à un regard différent sur la différence, justement, un regard plus ouvert, plus tolérant, et qui réunit entreprises, institutions et structures associatives pour des entrées différentes autour de la diversité. Donc on n'est pas que sur le handicap dans cette journée de la diversité, on est sur la diversité. Donc public en fragilité, les luttes contre les discriminations, l'égalité des chances, etc.
Et comment elle va s'organiser cette journée? Qu'est-ce qu'on pourra y trouver?
Alors dans cette journée, il y aura déjà 80 stands, dont la moitié à peu près de stands d'entreprises, avec un forum emploi qui se déroulera toute la journée en parallèle. Et puis, on va y retrouver des associations qui œuvrent sur des champs différents, mais toujours dans le domaine de la diversité. Et nous y trouverons également des institutions, donc différentes institutions qui sont présentes et qui ont envie de voir avancer ce chantier sur la diversité dans les esprits et sur le terrain surtout, de façon pragmatique.
Et il y aura aussi des débats.
Alors il y aura deux débats essentiellement. Donc un débat qui tourne autour des nouveaux métiers et des métiers en tension, qui aura lieu le matin de 11h30 à 13h. Et puis un débat sur le sport en tant que vecteur d'insertion, qui aura lieu l'après-midi de 13h30 à 15h. Ce sont des débats avec des échanges. On veut des échanges très ouverts, très, très dynamiques entre la salle et les intervenants, qui évidemment tous de l'expertise. Mais le but, c'est qu'il y ait vraiment des réponses données et qu'on soulève des questions qui sont des questions concrètes.
Et qui est invité à venir alors ?
Alors sur le premier débat, nous avons invité une structure de la région qui est Transition Pro PACA, qui offre justement aux transitions. Nous aurons l'intervention de Fabrice Greffé, qui est le président du champ de l'intérim, qui est aussi vice-président de la chambre de commerce. Nous aurons également l'intervention de Orange, et d'ADECO, donc pour des témoignages sur les actions qu'ils mènent au sein de leur structure par rapport à ces chantiers, et surtout pour qu'ils nous dressent un tableau des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers, de ce qu'attendent les entreprises, qu'est-ce qui se profile. Et la question en filigrane, c'est comment nos publics sont-ils prêts par rapport à ces nouveaux métiers ? Est-ce qu'ils sont prêts déjà ? Et que faire pour faire avancer les choses ? Voilà. Donc, c'est des questions très, très, très pragmatiques autour d'un sujet où, évidemment, on pose les bases d'un diagnostic, mais surtout, on essaye d'avancer des solutions, d'avancer des idées et de montrer des témoignages par rapport à ça.
À qui s'adresse cette journée de la diversité ?
Cette journée, elle s'adresse à tout le monde. Voilà, il ne faut pas particulièrement avoir de carte de visite pour être présent. Tout le monde peut venir parce que je pense que tant les familles que les personnes individuelles, les personnes handicapées, les personnes en souffrance parce qu'ils ne trouvent pas de travail depuis des années, depuis des mois, on s'aperçoit que en fait tout le monde est en besoin d'avoir des réponses, de pouvoir s'exprimer aussi. Hein. Donc oui, on est aussi bien là pour exprimer des choses que pour écouter, hein, pour entendre ce qui nous est retracé. Et par exemple, dans les exposants, nous avons la MDPH et nous avons aussi la SDPH. Alors la MDPH qui s'occupe de public handicapé, la SDPH aussi, mais d'une autre façon, qui promeut les projets, les actions par rapport aux personnes handicapées. Du conseil départemental, donc des Bouches-du-Rhône. Mais nous avons aussi, par exemple, Cap Emploi, hein, qui sera présent, qui pourra aussi donner des réponses, amener des idées, des suggestions. Voilà. Donc, on a un peu, dans cette journée de la diversité, on a cherché à avoir un peu tous les pendants du sujet. Voilà.
Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations ?
Alors, ces informations sont en ligne sur LinkedIn, à mon nom, Massioni, et on diffuse énormément par les réseaux, hein, donc tous les réseaux. Et puis, vous pouvez tout simplement éprouver de l'intérêt pour le sujet et nous envoyer un petit mail. Et vous serez directement invité. Donc, le mail, c'est diversité et handicap. Donc, diversité ET, ensuite handicap. Tout en minuscules, sans accent, bien sûr, @gmail.com.
Comment concilier vie familiale et activité professionnelle ?
L'Union nationale des associations familiales, UNAF, a pour mission de défendre les intérêts des familles. Mobilisée depuis 2009 sur les questions de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, l'UDAF 05 poursuit son travail de sensibilisation sur l'articulation des temps de vie pendant qu'une enquête au niveau national est réalisée sur les besoins des parents à l'arrivée d'un enfant. À terme, des réponses concrètes seront apportées aux familles. Samedi 27 novembre, salle L'Impro, Neptune à Gap, 140 boulevard Pompidou, se tient une rencontre-discussion de 16h à 19h30 pour parler de la conciliation des temps de vie familiaux et professionnels. Marmot, Boulot, Dodo s'inscrit dans le cadre des Journées des Familles du réseau d'aide à la parentalité. Elle a été préparée et organisée grâce à une subvention de l'État dans le cadre du programme « Égalité entre les femmes et les hommes ». Mylène Armando, vice-présidente de l'UDAF 05, en dit plus au micro de Vincent Vacher.
Effectivement, c'est un vrai casse-tête pour les parents et c'est un casse-tête qui engage donc tous ces enjeux de l'articulation des temps de vie, de cette conciliation vie familiale, vie professionnelle. Dans ces événements des Journées des Familles, il me semblait intéressant de revenir sur ce sujet que nous avions traité déjà en 2019 et qui nous avait déjà souligné l'intérêt d'inciter les différents partenaires, les entreprises, les institutions, les associations, mais aussi les familles à mener cette réflexion sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour un environnement favorable justement à cette conciliation. On en est aujourd'hui, 13 ans plus tard, un petit peu, je dirais, sur les mêmes interrogations et on va essayer d'explorer ça, donc, comme vous l'avez dit, samedi.
Vous vous avez lancé une grande démarche d'enquête, on pourrait dire.
Alors, nous avons, nous, participé à cette enquête, hein, notamment en sollicitant des parents qui ont témoigné de ces difficultés à concilier ces vies familiales, vie professionnelle. Mais surtout, ce sont des préoccupations qui sont issues aussi de notre réseau national et également du gouvernement, puisque Monsieur Adrien Taquin, hein, secrétaire d'État, a sollicité justement l'UNAF pour qu'elle mène 3 enquêtes sur ce sujet. Donc une enquête de témoignage de parents, et puis une enquête qualitative et une enquête quantitative. Donc on peut les retrouver sur les sites de l'UDAF, ces 3 enquêtes, mais qui nous révèlent, par exemple, hein, que c'est encore un sujet important pour les parents. 92% trouvent que c'est un sujet important, et parmi les parents, 97% des parents d'enfants de moins de 13 ans sont très préoccupés par ce sujet. Et on constate également qu'il y a une faible implication des employeurs pour faciliter cet équilibre. Donc à peu près 62% des salariés pensent que il y a une faible implication des employeurs pour justement réfléchir à ces conciliations.
On va un peu détailler le déroulé de cet après-midi du samedi 27 novembre avec des rencontres, discussions pour parler justement de cette conciliation des temps de vie.
Tout à fait, absolument. Alors ce n'est pas du tout une conférence. On a vraiment voulu aborder ça sur un côté un petit peu ludique et humoristique, justement pour mieux cerner et faire évoluer les représentations, reconnaître l'importance et la nécessité de ces temps personnels, voir un petit peu aussi les freins dans les entreprises et les difficultés rencontrées aussi par les familles monoparentales et les familles qui ont aussi des familles, des enfants handicapés, enfin tout ce qui fait que ça peut encore compliquer ces conciliations. Et pour ça, on a invité la troupe Impro Vibration à nous proposer 3 zooms. Alors je redis, hein, sur le côté un petit peu humoristique, un zoom du côté de la maison, hein, la maison et la vie de famille, comment ça s'organise, qui partage les tâches ménagères, les tâches domestiques, les gardes d'enfants, enfin un peu tout ce que on peut croiser, hein, on peut questionner quand on est parent. Et puis nous irons faire aussi un tour du côté du travail et de l'entreprise. Quels sont les freins et les leviers pour aider les salariés à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, mais également pour les entreprises, qu'est-ce qu'elles engagent, qui est-ce qui est compliqué, qui est-ce qui est facilitateur. Et enfin, comme je vous le disais, il y aura aussi un sketch autour des familles monoparentales et toutes ces situations qui sont complexes à gérer, les familles nombreuses et naissances multiples et les enfants porteurs de handicap. Donc c'est vraiment, vraiment pour nous une manière d'aborder les choses. On espère surtout des échanges éclairants entre parents. Il n'y aura pas ceux qui savent et les autres. C'est vraiment pour nous ces échanges-là qui peuvent faire peut-être bouger un peu les lignes.
Une fin d'après-midi joueuse pour les enfants, parce qu'il n'y a pas que les parents qui participent. Vous avez pensé forcément aussi aux enfants qui pourront venir.
Tout à fait. Alors évidemment, les enfants peuvent venir avec leurs parents, ils peuvent rester avec leurs parents, il n'y a pas de problème, mais ils peuvent également aller jouer, puisque nous avons également invité l'association Ludambule, hein, pour autour du jeu. On peut aussi, entre parents, peut-être se partager ce temps-là, et un parent peut être accueilli au café des familles pendant que l'autre parent témoigne, et vice-versa. En tout cas, on a essayé effectivement d'être dans cette idée de conciliation de vie familiale et vie professionnelle. Quand on veut un peu participer au monde associatif, ça, il faut aussi le réfléchir et donner cette possibilité de participation. Donc on espère que les parents se sentiront concernés, que notre organisation va leur permettre de venir échanger, mais également les entreprises. J'espère qu'ils se sentiront vraiment partie prenante. Et c'est pour nous, c'est pas une fin en soi, hein, c'est vraiment quelque chose une porte qu'on ouvre, et on espère pouvoir continuer cette réflexion sur cette conciliation vie familiale, vie professionnelle.
Et au niveau des modalités, donc c'est ouvert à tout public. Faut-il un pass sanitaire pour y participer?
Oui, donc une action parentalité, pas de pass. D'accord. Pas de pass sanitaire, un masque évidemment, mais pas de pass sanitaire. Donc c'est vraiment c'est la moins de contraintes que si on allait au théâtre, au cinéma. C'est dommage pour les théâtres et les cinémas, mais voilà. En tout cas, nous, c'est ouvert parce que les parents peuvent se rencontrer sans avoir ces contraintes-là.
Faut-il s'inscrire au préalable?
Il est préférable de s'inscrire sur le site de l'UDAF, mais sinon c'est ouvert. Et je pense qu'il n'y aura aucune difficulté l'organisation de la famille se décrète au dernier moment, ce qui arrive souvent, et qu'on ait envie de venir, il n'y aura pas de problème pour l'accueil du public.
Voilà, on rappelle cette date, samedi 27 novembre de 16h à 19h30 à Gap, salle de l'impro, 140 boulevard Pompidou, bâtiment Le Neptune, avec Marmot, Boulot, Dodo. Merci Mylène Armando.
Et merci beaucoup.
On se retrouvera pour d'autres actions que vous menez.
Oui, j'y compte bien. Au revoir.
Au revoir.
La domotique tient son salon jeudi 2 décembre à Digne.
Rendez-vous est fixé au Palais des Congrès le 2 décembre pour ce troisième salon de la domotique, une technologie qui rend les maisons intelligentes au bénéfice direct de leurs occupants. Bien-être, aide à la personne et adaptation du domicile sont au cœur de cette journée. Il y a ainsi plusieurs ateliers, prévention par l'activité physique ou aménager son logement, une table ronde dédiée aux artisans et enfin, sur inscription, une soirée sur l'innovation au cœur des territoires et au service des seniors. Bernard Bresse, directeur délégué à la formation au lycée Pierre-Gilles de Gênes, qui comprend dans son offre le BTS domotique et co-organisateur du salon, est au micro d'Odile Frison. Mais d'abord, Julia Vuillet, chargée de communication à Provence-Alpes-Agglomération.
Julia Vuillier, vous êtes chargée de communication à Provence-Alpes-Agglomération. Cette année, le salon de la domotique
se sera adapté. Forcément, un pass sanitaire sera demandé à l'entrée, mais sinon, on a pu l'organiser. L'événement est organisé par le lycée Pierre-Gilles de Gênes et par Provence-Alpes-Agglomération. Il est financé en grande partie par les fonds FEDER, Interreg, Alcotra, dans le cadre des deux projets européens ProSol Senior et Clipi Santé Silver Economy. Il bénéficie aussi du soutien de la ville de Digne-les-Bains, de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, du Lions Club, de Schneider Electric et de la Mutualité française.
C'est la troisième édition. La nouveauté, c'est que c'est ouvert au grand public et ça, c'est une bonne chose. L'objectif, c'est vraiment de faire connaître les appareils qui peuvent faciliter la vie des personnes à domicile.
Oui, c'est ça, en fait. De présenter au grand public toutes les solutions qui sont développées pour leur permettre de bien vieillir et pour favoriser le maintien à domicile. En sachant que, donc, on parle en termes d'équipement, mais aussi de services. C'est vraiment très large. Alors, pour chaque édition, le salon se renouvelle un petit peu. Donc, cette année, il y a de nouveaux exposants. Presque une trentaine d'exposants œuvrent pour l'adaptation du domicile, ou des concepteurs en domotique, des structures spécialisées en accompagnement santé, etc. Donc, il y a pas mal de nouveaux exposants cette année, avec notamment les deux startups lauréates de la rencontre de la Silver Economy. Donc, ça, c'est nouveau aussi. Acoesis et Emotivi. Donc des animations tout au long de la journée. Il y a des nouvelles animations aussi par rapport à il y a 2 ans. Ils pourront aussi tester et se renseigner sur les bons gestes des aidants, découvrir la maison sport santé. Et la grande nouveauté de cette année, c'est que la soirée thématique, qui est consacrée à l'innovation au cœur des territoires au service des seniors, elle est ouverte au grand public sur inscription. Donc là, il y aura plusieurs tables rondes sur les acteurs qui œuvre par rapport aux enjeux du vieillissement de la population, des intervenants notamment du directeur de France Silver Eco dans le cadre du Tour de France des Silver Régions. Et voilà, donc là vraiment le grand public est invité à s'inscrire par mail ou téléphone pour assister aux différentes tables rondes qui sont suivies d'un cocktail dînatoire.
Pourquoi une inscription? Parce qu'il y a un nombre limité?
Oui, ce sera limité, mais bon, a priori, il n'y aura pas de souci. Si vous vous inscrivez même au dernier moment, il y aura encore de la place. C'est plus pour avoir une visibilité sur le nombre de participants pour la soirée.
C'est jeudi 2 décembre.
Oui.
Toute la journée.
Donc, le salon, donc avec tous les ateliers et les stands, c'est ouvert de 10h à 17h30. Et ensuite, la soirée débute juste après. À partir de 18h, les interventions et tables rondes commencent jusqu'à environ 21h, 21h30.
Donc, c'est pour la soirée qu'il faut s'inscrire, pas pour le...
Voilà. Le salon, on peut y accéder sans problème, il n'y a pas besoin de réserver. Par contre, pour la soirée, effectivement, il faut réserver. Par téléphone, c'est le 06 70 67 89 69. Et par mail, c'est domotique@provencalpaglo.fr.
Bernard Bresse, directeur délégué aux formations au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Est-ce que vous pouvez me parler du concours étudiant qu'il va y avoir le 2 décembre?
Oui, le salon, il se fait, qu'on l'a commencé en 2017. Alors au départ, il se faisait seulement au lycée. L'objectif au départ, c'était vraiment de faire le lien entre la domotique, puisque nous, au lycée, on a un BTS domotique et on enseigne la domotique, et le domaine de la santé et le maintien à domicile, voir le lien qu'il pouvait y avoir à travers notamment des innovations technologiques qui sont proposées actuellement et qui permettent de faciliter le maintien à domicile. Donc c'est parti là. Donc en 2017, c'est le lycée tout seul qui l'a organisé au sein du lycée, puis à partir de 2019, la ville de Digne-les-Bains, et puis plus tard, l'agglo qui est venu aussi participer à l'organisation. Donc cette année, on est en partenariat ville plus lycée plus agglomération, Provence-Alpes-Agglo. Ça nous élargit un peu les contacts, puisque par exemple, l'agglo est en partenariat avec des projets européens transfrontaliers. Alors je ne me rappelle plus l'intitulé exact, mais c'est des projets qui se font entre la France et l'Italie, les deux régions, la région Piémont et la région PACA. Et notamment, dans ces projets, il y a des volets qui portent sur la mobilité et l'accompagnement des personnes, le maintien des personnes à domicile. Donc voilà, il y a aussi cet appui-là qui est fait. Et donc, si on parle du rôle des différents partenaires, nous, on est plutôt sur le volet formation. Donc, on a des formations. On va présenter des nouvelles formations qui ont été créées dans l'académie, justement, qui font le lien entre la domotique, les techniques numériques et puis le secteur de la santé. Donc, au niveau de la ville, donc gracieusement, ils mettent à disposition le palais des congrès et puis d'autres facilités qui nous permettent d'organiser le salon. Et puis, Provence-Alpes-Agglo, c'est tout un réseau de partenaires qui sont là, qui vont participer au salon et qui vont présenter des choses. Il y a une partie exposition, grand public, qui va durer de 10h à 17h30, donc le jeudi 2 décembre. Et pour ce qui concerne la soirée, qui sera réservée, disons, à quelques partenaires et où il y aura des débats qui seront organisés. Il y aura deux débats dans la soirée.
Il y a le concours étudiant qui a lieu à chaque fois. C'est combien d'étudiants?
Alors là, on est dans la finale. C'est-à-dire qu'en amont, on a contacté de nombreux lycées. On a eu des projets qui ont été soumis. Il y a eu une sélection de ces projets. Et le jour du salon, il y aura les trois finalistes qui vont présenter le projet le matin. Il y aura un projet qui sera sélectionné par le jury. Le jury, c'est environ 10 personnes. Il y a des professionnels, il y a des personnes qui sont liées au monde de la formation. Et le lauréat sera doté d'un prix qui est sponsorisé par le Lions Club de Digne-les-Bains, qui sont partenaires du concours, étudiant. Et également la société WIT, qui est une société qui produit des robots et qui va aussi doter les étudiants de matériel.
Alors on rappelle, ce sont des étudiants de plusieurs lycées.
Il y en a un de la région, enfin nous évidemment, oui. Je parle des finalistes, le lycée Pierre-Gilles de Gênes, il y a le lycée, l'école Schneider à Grenoble, oui. Et puis il y a le lycée qui est dans le 95, département 95, donc ils viennent d'assez loin quand même.
Il y avait combien de participants et...
Alors cette année on a eu peu de participants, du coup on a eu 4 lycées au départ. Par rapport aux années précédentes, alors c'est peut-être lié au Covid et le fait qu'on a eu ce souci là pendant 2 ans. Voilà, on a été un peu restreint par le contexte sanitaire, je pense, cette année au niveau des candidats. Donc ils se retrouvent quasiment tous en finale puisque il y en a 3 sur 4 qui sont sélectionnés. On a eu 500 participants la première année, 1000 la deuxième, et cette année on espère augmenter encore le chiffre, avoir 1500 participants.
Fruits et saveurs d'autrefois ont leur journée à Manosque.
Le 5 décembre est organisée une journée des fruits et saveurs d'autrefois à la Thomassine, à Manosque, une manifestation gratuite proposée par le parc naturel régional du Luberon. Conviviale et riche en découvertes gustatives, la journée rassemble des pépiniéristes et des producteurs locaux heureux de présenter les variétés anciennes de la Provence. Le public pourra découvrir les saveurs et les arbres fruitiers régionaux, acheter des plants également et participer ainsi à leur conservation. Des conférences, diverses animations ou encore une buvette sont au programme. Le coordinateur de la Maison de la Biodiversité détaille cette journée et présente le domaine de la Thomassine au micro de Mathieu Marc. Mathias Ménian.
La Thomassine, c'est un domaine agricole qui est situé dans les collines de Manosque, qui appartient à la ville de Manosque et qui est confié au parc du Luberon depuis 1997 pour sa gestion. Donc on est cinq personnes à travailler ici, tous salariés du parc du Luberon. Sur ce site, avant tout, on conserve des variétés anciennes d'arbres fruitiers. On a à peu près 420 variétés de fruitiers et d'oliviers. On les conserve parce que sinon elles seraient perdues à jamais. Donc c'est des variétés qui ont été mises au point pendant des décennies par par nos ancêtres. Ces variétés, on les conserve aussi parce qu'elles pourraient être utiles pour répondre aux enjeux de l'agriculture de demain. Voilà. Après, au-delà de cette conservation et de garder dans nos vergers, on a 6 hectares de vergers, à peu près 2000 arbres. Au-delà de cette simple conservation, on essaye de sensibiliser le grand public en organisant des événements, en organisant des formations. On accueille beaucoup de scolaires également, des classes, des centres de loisirs. Et on accueille aussi des visiteurs, des gens de passage ou parfois des gens du coin qui s'intéressent à l'arboriculture et qui viennent découvrir nos variétés. On s'aperçoit que la plupart des gens soupçonnent pas qu'il y ait autant de variétés disponibles.
C'est l'occasion de parler de cette journée des fruits et saveurs d'autrefois. Ce dimanche 5 décembre 2021, c'est de 9h30 à 17h. À noter aussi que c'est une entrée gratuite ouverte à tous et toutes. C'est donc l'occasion de découvrir à la fois ces saveurs et ces arbres fruitiers d'autrefois. Comment vous amenez cette découverte pour le public?
Alors cette journée, c'est le plus gros événement qu'on a dans l'année ici à la Thomasine. Chaque année, c'est le premier dimanche de décembre. C'est un rendez-vous régulier. Ça fait à peu près 20 ans que ça existe et donc il y a des habitués qui viennent parfois de très loin. Des fois même la veille, ils arrivent, ils dorment dans leur camping-car pour être là les premiers. L'attraction principale, je dirais, entre guillemets, c'est qu'il y a un grand nombre de pépiniéristes. C'est pour ça qu'on organise cette journée-là début décembre, parce que c'est la saison où on peut planter les arbres. Donc l'objectif premier, c'est que les gens achètent ces arbres, ces variétés anciennes, et les plantent chez eux. Autour de ces pépiniéristes, bien sûr, il y a plein d'autres choses, d'autres stands, des produits du terroir, un petit peu d'artisanat, quelques associations comme la LPO et après quelques animations.
Il y a aussi 2 conférences, une à 13h30, une à 14h30.
Oui, donc à 13h30, il y aura une conférence sur le thème de la permaculture et l'éco-gastronomie. C'est monsieur Doumézel qui va présenter ça de Permaculture Provence. Et puis à 14h30, une conférence gesticulée. C'est un peu théâtral en fait comme conférence, mais avec un sujet très sérieux. Le thème de cette conférence est du tracteur à l'âne. Et en fait, ce monsieur qui est Marc Pion, qui est fils de paysan puis ouvrier agricole, raconte son parcours personnel et ses interrogations face à l'évolution de l'agriculture.
Il y a aussi quelques animations proposées par des techniciens du parc du Luberon.
Quelques collègues du parc vont proposer des animations chacun dans leur domaine de compétences. Il y aura une rando nature, tout d'abord à 10h, qui va permettre de découvrir les espaces boisés des collines qui se trouvent autour de la Thomasine. Et puis, parmi l'équipe de la Thomasine, il y aura Mohamed Nahal qui proposera une visite guidée des vergers. Et Olivier Brunet, chef de culture à la Thomasine, qui fera une démonstration de taille et une démonstration de plantation.
Il y a aussi un aspect convivialité prévu pour cette journée, notamment avec une buvette, repas, etc.
Il y a à peu près une 50aine de stands en tout. Donc c'est l'occasion idéale de faire des beaux cadeaux de Noël. Et pour rendre les choses plus agréables, bien sûr, il y a aussi une buvette, il y a un endroit pour se restaurer, même si sur les stands, il est possible aussi de constituer un beau pique-nique. Il y aura des jeux pour les enfants et puis un groupe de musique, les oiseaux de passage, qui vont déambuler et animer la journée autour des chansons de Brassens.
Peut-être un mot aussi autour des conditions sanitaires et de l'accueil, puisque pour cette journée, c'est un petit peu particulier.
Donc aujourd'hui, je peux pas me prononcer pour les conditions sanitaires en vigueur le jour de l'événement, mais pour l'instant, ce qui a été convenu avec la préfecture du 04, c'est que tous les espaces extérieurs, marchés, stands, etc., pour cela, le pass sanitaire ne sera pas demandé. Voilà, il sera demandé uniquement pour accéder à l'espace repas, conférence et buvette.
S'il y a des auditrices et auditeurs intéressés par cette journée, le mieux est d'aller sur le site internet de la Thomasine. En l'occurrence, c'est le site internet du parc du Luberon.
C'est ça. Le programme complet de la journée est disponible sur le site du parc du Luberon. Donc c'est www.parcduluberon.fr.
petite frimousse, grand cliché.
Du 29 novembre au 5 décembre, un grand concours photo gratuit est lancé par Focus Provence et l'école de photographie de Maligé en collaboration avec l'espace collaboratif Équitable. Le concours est ouvert sur inscription et concerne les bambins de 0 à 2 ans, l'instant d'une pause devant l'objectif pour bébé et sa maman, dans une ambiance professionnelle et agréable. Les gagnants seront récompensés par de très nombreux lots. Francis Van Sever, photographe professionnel et directeur de l'école de photo de Maligé, répond aux questions de Chris Alessandri.
Alors, il s'agit d'un événement très sympathique. C'est le concours Les Petites Frimousses 2021 au sein de l'école de photographie qui se situe à Maligé. Nous allons inviter des mamans et leurs bébés, forcément, de 1 mois à 2 ans à venir les faire photographier gratuitement.
Deux petits mots peut-être sur votre cursus. De quelle façon vous avez été amené à la photo et pourquoi cette passion dans votre vie?
Ça remonte à quelques décennies, donc ça a toujours été ma passion de tout temps. J'ai monté plusieurs écoles dans la PACA, à Manosque, à Avignon, à Cannes-sur-Mer aussi. Et maintenant, on a monté une école à l'ECE sur Maligé, et dans laquelle nous formons aussi des gens à la photographie à plusieurs niveaux. Voilà.
Alors dans ce côté artistique que vous développez, Francis, il y a également les marches du palais, les fameuses marches à Cannes. Vous avez assisté au Festival Cannes, vous avez fait des tas de reportages avec des tas de stars.
Oui, évidemment, c'était l'endroit idéal. Voilà. Alors, on a eu l'occasion de fréquenter pas mal de gens connus. Bah, à l'époque, moi, j'ai photographié Belmondo, Brigitte Bardot et beaucoup d'autres dans le cadre de mes activités.
Il y avait même Johnny Hallyday qui vous avait dit « Bon, maintenant, il faudrait un peu me laisser tranquille », quelque chose comme ça.
Il me l'a dit d'une autre façon, il m'a dit « Casse-toi ». Voilà. Mais gentiment, hein, parce qu'il était en train de déjeuner avec Sylvie Vartan à l'époque. Voilà, hein. On est content de se faire dire ça par Johnny. Hein.
Juste deux petits mots encore sur votre vie de passionné. C'est une vie d'aventurier hein, que vous avez menée littéralement au cœur de la photographie, de la passion.
Oui, j'ai abordé le métier avec son évolution, qui s'est déroulée quand même sur plusieurs facettes. Il y a eu des pertes de marché. J'ai eu aussi un magasin de photographie à Manosque, le Studio Serge, que j'exploitais quelques années. Après, je me suis rendu compte que ça perdait un peu de son intérêt à cause que la clientèle prenait de nouvelles habitudes, notamment avec Internet, tout ça. Et je me suis donc recyclé sur la formation. J'ai démarré à Manosque et après, c'est parti sur Toulon, c'est parti justement sur Cannes, c'est parti sur Avignon et à chaque fois, j'ai monté une école. Il y a même une école à Bormes-le-Mimosa et j'ai essaimé un peu les formateurs qui étaient tous des anciens stagiaires.
Et votre passion pour la photo classique, on va dire l'argentique, où en est-elle à présent? De quelle façon vous travaillez?
Actuellement, on assiste à un regain de l'argentique. D'ailleurs, ici, sur Maligé, nous avons un très beau laboratoire argentique bien équipé et on s'aperçoit que les gens prennent quand même plaisir à revenir aux anciennes formes. Notamment, nous avons fait un stage à Salagon avec des enfants et ils ont tous été séduits par le fait de voir une photo qui réapparaît dans le révélateur. On revient à la source et dans l'Amprouge, hein, il y a un côté magique qui se produit. Donc, les gens ont tous eu leur papa ou leur grand-père hein, qui faisait ça. Ils connaissaient ça, mais ils avaient oublié. Même les enfants avaient oublié que ça existait, les pellicules. Donc, on essaye de remettre ça au goût du jour à plusieurs niveaux.
Francis Van Sever, un studio à Maligé. Donc, il y a tout un espace et du matériel qui est là, qui attend les personnes intéressées, les personnes qui auraient envie de s'initier également à la photo.
Exactement. Et nous avons même un super photo club à Maligé. C'est une fois par mois, une adhésion qui n'est pas très chère. Et là, les gens reprennent le travail de studio avec des modèles, avec dans toutes les disciplines. On fait des sorties et également au laboratoire pour apprendre à servir de ce genre de matériel, quoi. Voilà.
Alors donc, pas mal d'idées dans votre tête, pas mal d'actions que vous menez. Prochainement, donc, ce concours de photos que vous lancez, on va rappeler la base du concours, le principe et comment ça se déroule.
Alors, c'est du 29 novembre au 5 décembre. C'est sur prise de rendez-vous. Alors, les rendez-vous se traitent au 06 03 69 63 10. Nous, on va diffuser ces informations sur le net. Hein. Voilà. Donc, c'est le CE. C'est, ça s'appelle comme ça parce que ça veut dire espace collaboratif équitable. Donc, c'est le bâtiment dans lequel nous sommes. C'est 2 rue des Micro-Couliers. Et ce sont les anciens locaux de l'AFPA que nous avons repris il y a 2 ans. C'est même à côté de la résidence Paul Cézanne. C'est un IPAD qui est connu. Le concours se déroule du 29 novembre au 5 décembre 2021, forcément. C'est photographié par les élèves de l'école de photographie Focus Provence, c'est-à-dire l'école de photo. L'intérêt de la chose, c'est que ça fait un training intéressant aussi pour nos stagiaires, pour nos élèves. Après, il y aura des gagnants. Il y aura 3 catégories de participants. La première catégorie, c'est de 1 à 3 mois. La deuxième catégorie, c'est de 4 à 12 mois. La troisième catégorie, c'est de 12 mois à 24 mois. Et il y a donc 3 gagnants par catégorie d'âge. On n'a pas voulu faire un concours où il y ait trop d'intérêt. Hein. Donc ils vont gagner des petits lots offerts par les commerçants. Il y aura 3 gagnants par catégorie. Bah, ceux-là, ils auront un peu plus. On leur offrira des posters ou une coupe et puis des médailles. Donc c'est surtout le côté convivial qu'on a voulu garder. Voilà. Historiquement, ce concours de bébés, le dernier qui a été fait, c'était à Vox, il y a 10 ans en arrière. On a repris l'idée et il avait navigué ce concours que j'avais initié sur Nice, sur Avignon, sur beaucoup d'endroits. Et j'étais surpris de voir qu'il y a beaucoup de parents qui disent « Tiens, rappelez-vous, vous avez photographié mon bébé, le bébé, il a 30 ans, quoi, ou 20 ans. » Voilà. Donc il y a un côté qui fait que les gens, c'était un petit événement, et pour eux, c'était une reconnaissance, et puis c'était sympa, parce qu'ils se font offrir une photo. Tout le monde a une photo gratuite, hein, voilà. Après, s'ils veulent plus, c'est à voir, mais il n'y a aucune obligation. Et c'est surtout le côté où les gens vont avoir une photo faite par des photographes. On a un super studio, donc ça n'a rien à voir avec les photos que les gens peuvent faire actuellement avec même leur téléphone, pourquoi pas, hein. Mais je veux dire que là, c'est dans des conditions professionnelles. Voilà.
Carzo accueille l'Artothèque.
Cette belle association qui propose de prêter et partager les œuvres d'art n'avait pas pu fêter ses 10 ans en 2020 pour cause de Covid. Aussi, c'est un 10+1 qu'affichaient les membres de l'Artothèque autour de la présidente Frédérique Marcillet. Une exposition collective de belle teneur à visiter jusqu'au 19 décembre. Et après un concert inaugural produit par l'association Jeux d'Anches, alliant la musique aux arts plastiques, le public venu en nombre a pu admirer peintures, sculptures, photographies ou encore tapisseries de la 30aine d'artistes exposés dans l'écrin des salles d'exposition de la Fondation Carzou. Une fondation en sursis, car elle a demandé sa dissolution pour cause économique devant des travaux importants et nécessaires à réaliser. C'est l'agglomération qui prendra le relais, la ville de Manosque restant propriétaire de ce joyau qui portera toujours le nom et l'œuvre de Carzou comme un flambeau. Nous évoquons ce sujet avec Sandra Faure, vice-présidente de DLV Agglo, qui était accompagnée de sa collègue Laurie Sardella, conseillère départementale et présidente du conservatoire. Toutes deux ont apporté leur soutien à Frédéric Marcillet et Marie Boissin, qui président pour quelque temps encore la Fondation Carzou. Sandra Faure, vous êtes vice-présidente de la DLVA, vous êtes présente à l'inauguration de l'Artothèque, des 10 ans plus 1 de l'Artothèque à la Fondation Carzou. Quel regard vous portez sur cette association, l'Artothèque ?
Alors l'Artothèque, c'est une association que j'ai découvert récemment et je suis heureuse de voir tout ce que peut proposer cette association, justement par cette forme très originale de partage de l'art. Quelle belle notion de se dire qu'on peut profiter d'une œuvre de façon temporaire, mais prendre le temps chez soi de l'admirer, de pouvoir en profiter pleinement et de se dire qu'un jour, on va en découvrir une autre. C'est quelque chose que je trouve d'abord original, mais c'est tellement beau. Dans le service, on a la chance d'avoir un beau réseau des médiathèques avec le prêt du livre. Grâce à cette association, on peut aussi, à la médiathèque de Manosque, la médiathèque d'Herbès, pouvoir emprunter un livre, un DVD, un magazine et un tableau. Parce que faut savoir que la médiathèque accueille l'Artothèque aussi. Et du coup, les œuvres sont proposées à la location là-bas.
Vous avez remarqué également que le nombre d'artistes est important, mais aussi la diversité. Il y a de la sculpture, de la photographie, de la tapisserie, de la peinture, bien sûr.
Oui, alors que d'œuvres et 28 artistes présents qui font partie du territoire en plus. Donc c'est ça, c'est aussi mettre en avant les artistes d'ici, montrer leurs œuvres, les faire découvrir. Et c'est un beau message.
Alors nous sommes ici à la Fondation Carzou, le sujet vous n'allez pas y couper, Sandra Faure, la Fondation Carzou qui est en train d'être dissoute pour des raisons économiques notamment, c'est la DLVA qui va récupérer la Fondation Carzou, c'est une transmission.
Oui, c'est une transmission qui est importante. La dissolution d'une fondation, ce n'est pas rien. Ça reste quand même quelque chose, heureusement, d'assez rare. Mais ici, elle va se faire sereinement. Et c'est très important de le dire. C'est pour nous un privilège de pouvoir récupérer ce bâtiment comme équipement. Dans un premier temps, là, nous avons signé une convention parce qu'il est important de rappeler qu'il y a des travaux à faire. C'est le service culturel de la DLVA qui va s'en charger. Dans un second temps, on reprendra donc l'équipement dans sa globalité en régie et on aura le plaisir de pouvoir prendre la suite sur une programmation qui était déjà complète, voilà, avec notre touche à nous et avec aussi l'équipement du centre Genoux qui est juste à côté, pouvoir envisager plein de belles choses.
C'est la fin de ce magazine. Merci François, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Pas de problème, merci Olivier, à bientôt.